Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu qui est pour nous comme une paix, comme une mère et un père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Bienvenue à toutes et tous au culte d'aujourd'hui. En ces temps difficiles, il est d'autant plus précieux de pouvoir vivre aujourd'hui cet échange de chair des églises de la CERFSA, la conférence des églises françaises en Suisse alémanique. Je m'appelle Evelyne Zinstag, je suis l'une des deux pasteurs à l'église française de Bâle, et j'y suis depuis un peu plus de 2 ans. Je succède à Daphné Raymond, que vous avez peut-être aussi connue. Je me réjouis beaucoup de célébrer ce culte avec vous et de faire connaissance de votre communauté saint-galloise aujourd'hui. Et je vous invite directement à vous lever pour invoquer Dieu ensemble avec les paroles du psaume 90 que vous trouvez sur la feuille. Et j'invite les femmes à lire avec moi les paroles plutôt en marge et les hommes à y répondre avec les passages qui sont imprimés en retrait. Seigneur, de génération en génération, c'est toi qui as été notre refuge. Tu fais retourner les humains à la poussière. Tu leur dis, retournez d'où vous êtes venus. Reviens, Seigneur, n'attends plus. Accorde ta grâce à ceux qui te servent. Seigneur notre Dieu, accorde-nous ta douceur. Amen. Et nous pouvons rester debout pour chanter ensemble au cantique 205. Nous chantons les 3 strophes. Seigneur notre Dieu, dans la beauté et le calme de ce matin, tu nous appelles à la vie. Nous n'attendons rien d'autre que d'être enveloppés de ton amour, d'être rafraîchis et renouvelés par ton Esprit Saint. Seigneur notre Dieu, notre foi est pleine d'incertitudes, de doutes, d'inquiétudes. Nous te les présentons maintenant et nous te prions. Apaise nos cœurs et fais grandir en nous le courage et l'espérance. Amen. Et je vous invite à répondre avec le cantique de Thésée que vous trouvez sur la feuille. Je vous invite à vous lever pour accueillir les paroles de grâce. Voici ce que dit le Seigneur, notre Dieu. N'aie pas peur, je t'ai libéré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Que l'assurance de la bienveillance et du pardon du Seigneur soit ancrée dans notre cœur et que le souffle fin de son Esprit Saint nous apaise et nous rafraîchit chaque jour à nouveau. Amen. Et nous répondons avec le deuxième chant de Thésée. En guise de confession de foi, je vous invite à lire ensemble la question 26 du catéchisme de Heidelberg que vous trouvez au verso de la feuille. Que crois-tu en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Que le Père éternel de notre Seigneur Jésus-Christ, qui de rien a créé le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, qui les entretient et les régit encore par son conseil éternel et par sa providence, est aussi mon Père et mon Dieu pour l'amour de son Fils Jésus-Christ. En lui je me confie et je suis sûr qu'il me donne tout ce qui est nécessaire à mon corps et à mon âme et qu'il fait tourner à mon bien tout le mal qu'il m'envoie dans cette vallée de larmes. Il peut le faire puisqu'il est un Dieu tout-puissant. Il veut aussi le faire, puisqu'il est un Père fidèle. Amen.
Nous lisons d'abord dans la lettre aux Thessaloniciens, hein, chapitre 5, les versets 1 à 6. Vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive au sujet des temps et des moments où tout cela arrivera. Car vous savez très bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi imprévisible qu'un voleur pendant la nuit. Quand les gens diront « Tout est en paix, en sécurité », c'est alors que, tout à coup, la ruine s'abattra sur eux comme les douleurs de l'accouchement surprennent une femme enceinte. Personne n'y échappera. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas en pleine obscurité pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous tous, en effet, vous êtes des personnes qui vivent dans la lumière, qui vivent en plein jour. Nous ne vivons ni dans la nuit, ni dans l'obscurité. Ainsi, ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés et sobres. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets 14 à 30. Il en sera comme de quelqu'un qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, à chacun selon ses capacités. Puis il partit en voyage. Celui qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 500 autres pièces d'or. De même, celui qui avait reçu 200 pièces agit de même et gagna 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et régla ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 autres pièces en disant « Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or. J'en ai gagné 500 autres. Les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Le serviteur qui avait reçu les 200 pièces s'approcha ensuite et dit « Maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or. J'en ai gagné 200 autres. Les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit « Maître, je te connaissais comme quelqu'un de dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as rien planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit, « Mauvais serviteur, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai rien planté. Tu aurais dû placer mon argent à la banque, et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or et remettez-les à celui qui en a 1000. » car à celui qui a, on donnera davantage et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et ce serviteur bon à rien, jetez-le dans l'obscurité du dehors, là où l'on pleure et grince des dents. Amen.
Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble au cantique 211, les quatre strophes. Chère communauté, ce n'est pas avec le passage biblique le plus simple que je viens à vous, mais j'espère que nous pouvons l'explorer ensemble de manière fructueuse. Face à l'écart grandissant entre les super riches et les vraiment pauvres de ce monde, cette parabole de Jésus peut sembler assez ahurissante. Jésus serait-il d'accord avec cette inégalité flagrante qui menace la vie des uns, tandis que d'autres ne savent pas que faire de leur richesse? En effet, la parole d'aujourd'hui a un enseignement étonnant. Il en est de l'amour, exactement comme de l'argent. Les deux fonctionnent de la même manière. Qui investit avec audace sera récompensé. Et Dieu exige de nous cela, que nous investissions dans ce monde qui en a tant besoin, tout l'amour qui nous est donné avec courage et assurance. Pour les mathématiciens d'entre vous, une parabole, c'est en fait un mouvement qui ne touche un trait qu'à un seul point. Et les paraboles sont donc des enseignements de Jésus qui parlent d'une chose pour en expliquer une autre, mais pas du tout de manière à ce qu'il faut, mettre en analogie ce qu'il veut vraiment enseigner, mais qu'il faut en fait le lire dans le contraire. Et donc, d'un côté, en effet, Jésus met l'argent et les dons que nous recevons de Dieu, c'est-à-dire la vie et l'amour, il les met en parallèle. Mais en effet, son enseignement ne suit pas tout à fait la manière dont l'argent agit dans le monde, tout de même. Mais nous l'approfondirons maintenant. Jésus connaissait les désirs du cœur humain et il enseignait la volonté du royaume de Dieu à travers des histoires pleines d'images et de symboles de la vie quotidienne. De cette façon, le royaume des cieux devint un peu plus compréhensible pour son public. Si l'on voulait donc résumer l'évangile de Matthieu en une phrase, ce serait celle-ci. Le royaume des cieux est bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer, espérer ou saisir. Même s'il dépasse les limites de notre imagination, contentons-nous aujourd'hui de méditer ce qui nous est révélé dans cette parabole des pièces d'or, ou comme elle est aussi très connue comme la parabole des talents. Ici, Jésus, bien sûr, ne nous enseigne pas les investissements financiers audacieux ou rentables. Et il ne nous dit pas non plus si un héritage doit être conservé ou investi. Comme les autres enseignements de Jésus, cette parabole aussi nous parle du royaume des cieux. Et si je la résumais en quelques points, voici ce que nous pouvons en tirer. Premièrement, dans cette parabole, personne ne possède aucune chose. Deuxièmement, tout le monde reçoit un don de Dieu. Et troisièmement, qui ose sera récompensé. Et finalement, un quatrième point, la peur peut nous paralyser. Et je vous invite à regarder de plus près maintenant ces points. Premièrement, personne ne possède quelque chose. Le texte nous parle de trois serviteurs qui ont reçu de leur maître une ressource qui ne leur appartenait pas, mais qui leur a été confiée. En termes monétaires d'aujourd'hui, chaque pièce d'or, chaque talent, représentait dans le temps 6 000 deniers et un denier équivalait à une journée de travail. Comparé à un salaire minimal en Suisse, qui est fixé à 20 francs par heure dans certains cantons, et donc qui reviendrait donc à environ 3 400 francs par mois, 8 pièces d'or, 8 talents, correspondraient à 6 millions et 400 000 francs environ. Ces 6 millions et 400 000 francs sont donc répartis entre 3 personnes dans des proportions différentes selon leur capacité. Mais toute cette fortune appartient à une seule personne. Et nous, quelles ressources obtenons-nous de notre Maître qui est dans les cieux? Les talents confiés par Dieu à chacun de nous ne sont pas aussi temporaires qu'un million de francs suisses ou d'un ticket de loterie gagnant. Notre Seigneur nous confie chaque jour beaucoup de choses, des trésors que nous ne gagnons pas par notre propre capacité ou force, mais qui nous ont été donnés comme don de Dieu. La vie et l'amour, la santé, l'amitié, etc. Rien de cela ne peut être acheté ou vendu. Au deuxième point, tout le monde reçoit un don de Dieu. Le maître quitte sa maison et confie ses biens à ses serviteurs. Son absence ne durera pas éternellement, il reviendra. Mais en son absence, il donne à ses serviteurs de grandes responsabilités. Il les connaît, il connaît leurs capacités. Que faisons-nous de tout ce que nous recevons de Dieu ? Le message de la vie éternelle et de la résurrection, qui a été confié aux disciples de Jésus-Christ comme un trésor précieux, ne doit pas être caché ou enterré dans notre conscience et nos cœurs. Rien, rien de ce que nous avons reçu de Dieu ne nous a été confié pour notre propre satisfaction, dans le privé. Au retour du Maître, ce retour qui était attendu, mais pas du tout prévu, il vient pour faire ses comptes. Son absence était temporaire et c'est pour ça qu'il appelle tout le monde à une responsabilité. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, lui aussi reviendra. L'avènement de son royaume est vécu et attendu maintenant, mais malheureusement pas entièrement. Et face à la fragilité de la souffrance de ce monde, nous sommes appelés à y mettre à l'œuvre les dons que nous recevons de Dieu, en attendant que le Seigneur revienne. Au troisième point, qui ose est récompensé. À son retour, le maître se réjouit des deux serviteurs qui ont augmenté les talents, les pièces d'or qui leur étaient confiées. Ils étaient audacieux et ont doublé ce qu'ils avaient reçu. Apparemment, le maître ne demande pas qu'ils lui rendent l'argent qu'il leur avait confié. Tout ce qu'il veut est de savoir ce que chacun a fait dans son absence. Sans doute n'a-t-il pas besoin de demander un retour, puisqu'après tout, rien n'a jamais cessé de lui appartenir. Cette parole ne nous parle donc pas d'investissement financier ou d'audace en bourse. Il ne s'agit pas des biens matériels, motif de désaccord entre famille, couple et amis. Cette parabole nous parle de confiance et d'amour. Chaque serviteur est récompensé par la joie d'être en présence de son maître. Et enfin, le quatrième point. La peur peut nous paralyser. L'un des serviteurs n'a pas osé agir comme ses collègues, car il était envahi par la peur de son maître. Peut-être craignait-il une punition. Il enterra tout ce qu'il reçut. Le serviteur savait que son maître était exigeant, que ses standards de qualité étaient élevés et qu'il n'aimait pas que l'on agisse n'importe comment avec les biens qu'il confiait à quelqu'un. Et cela a occupé l'esprit de ce serviteur à le paralyser, et il ne fit rien de ce qui lui était confié. Lorsque nous faisons face à une tâche difficile, cela peut nous arriver aussi. Nous pouvons vaciller sur notre chemin. La relation entre le serviteur et le maître est aussi une relation d'exigence et d'attente qui peuvent être déçues. Le troisième serviteur avait déjà reçu le moins au début de l'histoire, car son maître le connaissait déjà. L'on ne peut pas trop lui faire confiance, car l'on serait à la merci de son insécurité et sa peur. Cette histoire est dure à entendre, car elle inspire aussi en nous la peur d'être le troisième serviteur, de peut-être à cause d'une faute que nous commettons dans notre vie, d'être exclu à la fin du pardon ou du royaume des cieux. Mais comme je l'ai annoncé au début, les paraboles doivent être lues dans le contraire de ce qu'elles affirment. Et elle ne nous parle pas d'investissement en bourse, ni de la manière dont nous devons agir avec notre argent dans le monde, mais elle nous parle de la manière dont œuvre le royaume des cieux. Et si donc cette histoire racontée par Jésus parle du royaume des cieux, j'ai 4 points que nous pouvons tirer de cette histoire. Premièrement, le royaume des cieux ne nous appartient pas. Il appartient entièrement à Dieu. Deuxièmement, tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes nous est donné par Dieu. Troisièmement, Jésus-Christ est le Seigneur qui reviendra à notre rencontre, mais qui n'a fixé ni de date ni d'heure pour son arrivée. Il est à nous de mettre en œuvre les biens qu'il nous a confiés, la vie et l'amour que nous avons dans notre vie, jusqu'à ce qu'il revienne. Et quatrièmement, et c'est aussi à mes yeux très important, nous ne sommes pas moins aimés de Dieu si nous sommes des mauvais serviteurs, ou plus aimés si nous sommes bons et fidèles. Nous sommes tous et toutes aimés de Dieu tels que nous sommes. C'est pourquoi nous sommes appelés à le servir. Et c'est pourquoi il nous confie à chacun le don qui correspond à nos capacités. Ce n'est que lorsque nous agissons au nom de la peur au lieu de l'amour qui nous est donné, ou lorsque nous réagissons avec indifférence au don de la vie, que nous pouvons être séparés de Dieu. Car cela n'a pas aucun sens d'être un serviteur qui ne sert pas. En chacun et chacune de nous se trouvent des côtés de bons et de mauvais serviteurs. Avec cette parabole, Jésus nous encourage en effet de confier notre vie entièrement à lui, lui qui nous l'a donnée en premier, lui qui a confié sa propre vie à nous. En faisant confiance en sa grâce, en son amour et en son pardon, en faisant confiance que ces trois sont plus puissants que la peur et qu'ils l'emportent sur ce que nous faisons de mauvais, nous devenons libres de multiplier l'amour dans le monde, de demander pardon lorsque nous étions négligents dans le service et de reprendre courage après avoir commis une faute. En faisant confiance en sa présence, de lui dont nous attendons l'avènement, nous pouvons devenir prêts à nous servir les uns les autres et à faire circuler le message de son royaume dans le monde. Servons donc avec courage le Seigneur. Servons-le avec tout ce que nous avons et que nous sommes. Amen.
Thank you.
Prions. Éternel notre Dieu, nous te prions aujourd'hui, fais grandir en nous le courage de vivre ton amour et d'œuvrer pour ce qui est bon dans le monde. Nous prions pour toutes les victimes de violence aujourd'hui. Que ce soit violence domestique ou discriminatoire, ou encore violence organisée, comme en souffrent tant de gens dans ce monde. Aide-nous, Éternel, à surmonter cette violence et à transformer ce monde à la lumière de ton amour. Éternel, nous prions pour nos communautés francophones en Suisse alémanique. En tant que groupe de minorités langagières, fais de nous des lieux de rencontre et de soutien pour tous ceux qui viennent à nous. Et dans le silence, nous t'adressons nos prières personnelles. Et nous réunissons toutes nos prières en celles que tu nous as enseignées par ton Fils Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et j'invite maintenant Marianne pour faire les annonces. Et je vous invite à chanter au cantique de sortie et vous lever pour le cantique et la bénédiction. C'est au numéro 400. Allez maintenant dans la grâce et la paix de notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse rayonner sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son regard sur toi et te donne sa paix. Amen.